Chapitre 28. Des nouvelles dans un sac de toile. Un jour après que Matt eut promis d'aider Tesline, plus Jolene et une certaine Edessina qu'il n'avait même jamais vue, Tylene lui annonça qu'elle quittait la ville.
« Mon caneton, Sourode veut me montrer quelle étendue de l'Altara je contrôle désormais. »
Le couteau de la reine fiché dans le montant du lit, les deux amants reposaient sur les draps froissés. La souveraine dans le plus simple appareil, et Matt avec pour tout vêtement le foulard de soie qu'il portait en permanence autour du cou pour cacher sa cicatrice. Alors que Matt caressait la peau extrêmement douce de sa compagne, celle-ci s'amusait à suivre du bout d'un index verni en vert quelques-unes de ses autres cicatrices. En assez peu de temps, et malgré sa volonté de rester à l'écart des ennuis, le jeune homme en avait récolté pas mal. Dans cet état, une peau n'atteindrait sûrement pas un prix très élevé aux enchères, mais les cicatrices fascinaient la reine.
En réalité, ce n'est pas son idée. Tuan a pensé que ça m'aiderait à voir mon domaine de mes propres yeux, plutôt que sur une carte. Et quand cette gamine suggère, Sourode exécute. Comme de juste, la haute dame veut que ça se fasse très vite. Pour avaler de la distance, nous voyagerons à dos de Tourakan. Quelques 200 lieues en un jour, à ce qu'on dit. Ne tire pas cette tête, mon petit pigeon. Je ne te forcerai pas à grimper sur un de ces monstres.
Matt en soupira de soulagement. Non que l'idée de voler l'ait effrayé, au contraire, il était bien fichu d'aimer ça. Mais s'il restait absent des boudards un moment, Tesline, Jolene ou même la mystérieuse Edessina risquaient de devenir impatientes et de faire une grosse bêtise. Sans parler des âneries potentielles de Beslan, qui l'inquiétaient presque autant que les Aes Sedai. Excitée par son imminente aventure aérienne, Tylene avait plus que jamais l'air d'un bel oiseau de proie.
« Mon petit cochon en sucre, je serai absente à peine plus d'une semaine. »
L'index vert remonta lentement une longue zébrure sur le flanc du jeune flambeur.
« Dois-je t'attacher sur le lit pour être sûr qu'il ne t'arrivera rien ?»
Répondre au rictus pervers de Tylene par un sourire charmeur ne fut pas un jeu d'enfant. Matt aurait parié qu'elle plaisantait, mais pas sa chemise, loin de là. La tenue que la reine lui choisit ce matin-là était d'un rouge assez brillant pour blesser les yeux. Un océan de rouge, à part les fleurs brodées sur la veste et le manteau, et bien entendu, son foulard et son chapeau noir. La dentelle, autour du col et des poignets, rendait tout le reste encore plus rouge. Pourtant, pressé de sortir, Matt s'habilla à une vitesse record. Avec Tylene, mieux valait ne jamais parier. Après tout, elle ne plaisantait peut-être pas. Au sujet de l'impatience de Sourode, Tylene n'avait pas exagéré. Moins de 2 heures après leur réveil, si on se fiait à l'horloge à cylindre incrustée de gemmes, un cadeau de Sourode, Caneton accompagna sa reine sur les quais. Ou plutôt, ferma la marche sur Pépin, tandis que Sourode et Tylene chevauchaient en tête, suivis par la vingtaine de nobles du sang qui les accompagneraient, et une petite armée de Sojin, qui inclinaient humblement la tête devant leur maître et maîtresse, et regardaient tous les autres gens de haut. Le mignon d'une reine de l'Altara ne pouvait décemment pas avancer parmi les membres du sang, dont Tylene elle-même désormais. Car enfin, il n'était pas un larbin héréditaire, ni rien de ce remarquable niveau. Comme les membres du sang, la plupart des Sojin montaient de fort jolies juments à l'encolure délicate, ou des hongres aux yeux féroces et aux garrots puissants. Même si la chance de Matt ne jouait pas en matière de course de chevaux, il aurait tout misé sur Pépin, face à ses bêtes d'apparat. Son hongre ben n'en jetait pas, mais au sprint, il aurait fait admirer sa queue à la majorité de ses canassons. Et à tous lors d'une course d'endurance. Après un si long séjour dans une stalle, Pépin brûlait d'envie de galoper. Et Matt dut mobiliser tout son art, enfin, celui qu'il tenait de tous les hommes dont il partageait les souvenirs, pour le maîtriser. À mi-chemin des quais, cela dit, sa jambe se mit à lui faire un mal de chien. S'il voulait quitter Eboudard dans un proche avenir, il devrait choisir un bateau ou la ménagerie de Luca. Si on devait en arriver là, il avait un plan pour convaincre ce gaillard de lever le camp avant le printemps. Un plan risqué, certes, mais quand on n'avait pas le choix... En outre, l'autre option était encore plus périlleuse. Matt n'était pas seul à l'arrière-garde. Plus d'une 50aine d'hommes et de femmes, un manteau de laine sur la tenue transparente qu'il portait d'habitude, avançaient derrière lui sur 2 colonnes. Certains tenant par la bride des chevaux de bât chargés de paniers d'osier pleins de délices. Les membres du sang étaient perdus sans leur domestique, avec une si petite suite, certains semblaient même penser qu'ils allaient devoir vivre à la dure. Les yeux humblement baissés, les Dacovalés affichaient une servilité répugnante. Un jour, Matt avait vu l'un d'eux, un type blond d'environ son âge, courir comme un fou pour rapporter le fouet qui allait servir à son châtiment. Sans avoir un instant l'idée de différer ce supplice, voire de se l'épargner en fuyant. Le genre de larve que Matt n'avait jamais pu comprendre. Leurs jupes d'équitation laissant apercevoir leurs chevilles, Six souldames chevauchaient devant Matt. Une ou deux avaient vraiment de très jolies chevilles, mais en selle, ces femmes étaient aussi raides que des membres du sang. Leurs capuchons de leurs manteaux abaissés, elles semblaient ne pas sentir le vent, ou le traiter par le mépris. Deux damanes enchaînées avançaient à pied, à côté des chevaux. Matt étudia discrètement ces femmes. Petites, brunes et les yeux bleus, une des damanes était reliée par un Adam à la souldame au teint olivâtre qu'il avait vue avec Teslin. La damane brune, Matt le savait, répondait au nom de Pura. Son visage sans âge ne laissait aucun doute. C'était une ancienne Aes Sedai. Quand Teslin lui avait dit que cette sœur était devenue une vraie damane, Matt ne l'avait pas cru. Mais la souldame grisonnante se pencha sur sa selle pour dire quelques mots à la femme qui se nommait naguère Rima Galfrey. Sans la moindre retenue, Pura éclata de rire et en tapa dans ses mains de plaisir. Matt eut un frisson glacé. S'il tentait de libérer cette femme de son Adam, elle risquait d'appeler au secours. Mais quelle mouche le piquait ! Ne lui suffisait-il pas d'avoir trois Aes Sedai sur les bras ? Trois enquiquineuses à qui il allait devoir sauver la mise, un destin qui semblait être le sien dès qu'il mettait le nez dans une ville, c'était trois de trop. Et voilà qu'il en voulait une quatrième, histoire d'avoir encore plus de mal à sortir des boudards. Cette ville était un grand port maritime, avec peut-être la plus grande rade du monde. Ses jetées semblables de longs doigts de pierre grise qui s'enfonçaient dans l'eau sur toute sa longueur. À cette heure, presque tous les emplacements étaient occupés par des navires séanchaniens de tailles très diverses. Perchés dans les gréements, les hommes d'équipage saluaient Sourotte sur son passage, des milliers de gorges reprenant son nom. Sur les rares navires étrangers, les matelots agitaient les bras et beuglaient aussi, souvent sans savoir qui ils ovationnaient. Mais un peu de servilité ne pouvait jamais faire de mal. Sur ces bâtiments, le vent agitait l'étendard aux abeilles dorées de Liliane, les croissants de lune de Théar et le faucon d'or de Mayenne. À première vue, Rand n'avait pas interdit aux marchands de ces pays de commercer avec les Séanchaniens, sauf s'il le faisait dans son dos. Des couleurs tourbillonnèrent dans l'esprit de Matt, qui secoua la tête pour les dissiper. Par cupidité, presque tous les marchands auraient travaillé avec le meurtrier de leur mère. La jetée la plus au sud était vierge de navires. Des officiers Séanchaniens, casques à plumet sur la tête, attendaient pour aider Sourotte et Tailin à embarquer dans un des grands canots à huit rames, réquisitionnés pour l'occasion. Après lui avoir pincé les fesses comme si personne ne regardait, Tailin manqua arracher les cheveux de Matt en le tirant vers elle pour un dernier baiser. Tout ça sous le regard impatient de Sourotte, qui ne sembla pas se calmer lorsque la reine fut enfin installée dans le canot. Agitant les doigts à l'intention d'Alwyn, sa Sojin, elle la bombarda d'ordre, la forçant à se déplacer sans cesse le long de l'embarcation pour aller lui chercher tel ou tel objet. Les officiers saluèrent les autres membres du sang, puis les laissèrent se débrouiller pour embarquer avec l'assistance de leur Sojin. Les souldames aidèrent leur daman, et personne ne se soucia des dakovalés, qui durent en plus transférer les lourds paniers d'osier. Bientôt, les canots commencèrent la traversée de la rade en direction du terrain d'atterrissage des Raken et des Toraken, un peu au sud du Rahad. Slalomant entre les navires séanchaniens et les dizaines de bateaux du peuple de la mer à raisonner, ces embarcations filaient bon train. Les navires des Atal Nyeré arboraient désormais des vagues nervurées séanchaniennes et des cordages différents. Quant à leurs équipages, ils étaient désormais exclusivement composés de séanchaniens. À part les régentes des vents, dont Matt préférait ignorer le sort, et certains malchanceux vendus sur les marchés aux esclaves, tous les Atal Nyeré survivants étaient dans le Rahad avec les autres dakovalés. Une grande opération de nettoyage des canaux embués. Matt ne pouvait rien contre ça. Vis-à-vis de ces gens, il n'avait aucune dette, et question ennui, il était plus que largement servi. De toute façon, il n'y avait rien à faire, et rien à ajouter sur le sujet. S'il s'était écouté, Matt aurait fichu le camp sans attendre, histoire de laisser derrière lui les maudits navires du peuple de la mer. Sur les quais, personne ne se souciait de lui. Les officiers étaient partis depuis un moment, et on avait aussi emmené les chevaux de bas. Descendus des gréements, les marins avaient repris le travail, et les membres de la guilde des dockers recommençaient à pousser leur diable, chargé de caisses et de tonneaux. Mais si le jeune flambeur s'éclipsait trop vite, Tailin risquait de penser qu'il s'enfuyait, et elle le ferait poursuivre. Du coup, perché sur Pépin, il resta un long moment à agiter la main comme un crétin, jusqu'à ce que sa chair et tendre ne puisse plus le voir, même avec une longue vue. Malgré sa jambe douloureuse, il remonta lentement les quais, en évitant de regarder de nouveau la rade. Un peu partout, des marchands sobrement vêtus surveillaient le chargement ou le déchargement de leurs navires. À l'occasion, il glissait une bourse pensue à un homme ou à une femme en gilet de cuir vert, à un stimulus, pour obtenir une manutention plus délicate ou plus rapide de leurs biens. De l'argent perdu dans le second cas, car il semblait impossible que les dockers travaillent plus rapidement. Mais les gens du sud avaient toujours l'air de courir dans tous les sens. sauf quand le soleil, à son zénith, chauffait assez la pierre déjetée pour qu'on puisse y faire rôtir un canard. Mais sous un ciel gris et avec un vent mordant soufflant de la mer, on ne risquait pas de crever de chaud, quelle que soit la position du soleil. Sur le chemin du retour, Matt recensa plus d'une vingtaine de souldames occupées à sillonner les quais avec leurs damans. Montant à bord de tous les navires non séanchaniens, elle n'en laissait pas un lever l'ancre, ou accoster, mais ça Matt s'en fichait, sans l'avoir fouillé du pont à la cale. Il aurait parié que ce serait ainsi. Donc, il allait devoir opter pour Valan Luka. L'autre possibilité était trop dangereuse, sauf en cas d'urgence absolue. Avec Luka, les risques existaient aussi. Mais c'était le seul choix raisonnable. Revenu au palais Tarasin, Matt mit pied à terre, grimaça de douleur et récupéra son bâton de marche, glissé sous la sangle ventrale de la selle. Après avoir confié le hongre à un garçon d'écurie, il boitilla dans les couloirs, sa jambe gauche à peine capable de le porter. Avec un peu de chance, un bain chaud lui ferait du bien. Ensuite, il pourrait peut-être réfléchir. Luka, il faudrait le prendre par surprise. Mais avant d'en arriver là, il restait quelques petits problèmes à régler.
« Ah, te voilà !»
s'écria Noal en se campant devant le jeune homme. Depuis qu'il lui avait trouvé un lit, Matt avait à peine aperçu le vieil homme. Dans sa veste grise fraîchement brossée, il avait bonne allure. Surtout pour un type qui filait en ville tous les matins et ne rentrait jamais avant la tombée de la nuit. Lissant la dentelle qui ornait ses poignets, il sourit assez pour dévoiler ses dents manquantes.
« Seigneur Matt, tu prépares quelque chose, et je tiens à t'offrir mes services. »«
Pour le moment, je prévois de reposer ma jambe, rien de plus. »
À l'usage, Noal semblait des plus inoffensifs. Selon Arnan, chaque soir, il racontait des histoires que tous les bras rouges gobaient sans sourciller, y compris celle sur Shibuya, un endroit censément situé au-delà du désert des Aïel, où les femmes capables de canaliser avaient le visage tatoué, où plus de 300 crimes étaient punis de mort, et où des géants plus grands que des ogiers vivaient dans des souterrains, le visage à la place du nombril. Noal affirmait être allé là-bas, et quand on prétendait des choses pareilles, que pouvait-on être, sinon inoffensif? Cela dit, la seule fois que Matt l'avait vu manier ses longs couteaux, le type ne lui avait pas paru inoffensif du tout. À sa façon de toucher une arme, on voyait si un homme avait l'habitude de s'en servir.
« Si je décide de prévoir autre chose, je te ferai signe. »
Sans cesser de sourire, Noal tapota son nez crochu.
« Tu n'as pas encore confiance en moi, mais c'est normal. Mais si je te voulais du mal, il m'aurait suffi de ne pas intervenir cette nuit-là dans la ruelle. Tu as cette lueur dans le regard. J'ai vu de grands hommes ourdir des plans, et des crapules aussi, tu peux me croire. Quand il prépare un projet dangereux qu'il veut garder secret, un type a toujours ce genre de regard.
« Mes yeux sont fatigués, c'est tout. »
fit Matt, en s'appuyant sur son bâton. De grands hommes en train d'ourdir un plan? Noal les avait certainement vus à Shibuya, au milieu des géants.
« Je te suis reconnaissant, et tu le sais. Si je peux faire plus pour toi, n'hésite pas à demander. Pour l'heure, je file prendre un bain. »«
Ce golem, boit-il du sang ?»
demanda Noal en retenant Matt par la manche, alors qu'il tentait de se défiler. Le jeune homme regretta d'avoir mentionné ce nom devant Noal. Et si Birgit ne lui avait jamais donné d'explication sur cette créature, aucun doute qu'il s'en serait mieux porté.
« Pourquoi cette question ?»
Les golems se nourrissaient exclusivement de sang.
« La nuit dernière, on a trouvé un autre homme avec la gorge déchiquetée. Sauf qu'il n'y avait presque pas de sang sur lui, ni dans son lit. J'avais oublié de te le dire. C'est arrivé dans une auberge, près de la porte de Moldin. Si cette créature a quitté la ville, la voilà de retour. »
Regardant derrière Matt, Noal fit une belle révérence à lui seul savait qui.
« Si tu changes d'avis, je serai ton homme, »
dit-il en se redressant. Alors que le vieux type s'éloignait, Matt jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Sous une lampe dorée, Tuan le regardait à travers son voile. Le regardait ou les pieds? Comme d'habitude, dès qu'il s'en aperçut, elle se détourna et s'enfuit, dans le froufrou de sa jupe plissée. Ce soir, il n'y avait personne avec elle. Pour la deuxième fois de la journée, Matt frissonna. Quel dommage que la gamine ne soit pas partie avec Surot et Tailin. À cheval donné, on ne regardait pas les dents, certes, mais des Séanchaniens, des Aes Sedai, un golem, un vieux type louvdingue et une gamine grichonne, ça faisait quand même beaucoup pour un seul homme. Au fond, il n'avait peut-être pas intérêt à perdre du temps dans une baignoire. Matt se sentit un peu mieux quand il eut envoyé Lobin chercher le reste de ses vêtements dans l'armoire à jouets de Beslan et chargé Nérim de lui ramener Juilin. Quand il essaya de marcher, sa jambe le mit à la torture. Mais il ne pouvait plus se permettre de traîner. Du coup, autant accélérer le mouvement. L'objectif était d'avoir quitté Eboudar avant le retour de Tailin. ce qui lui donnait à peine quelques jours. Quand le pisteur de voleurs passa la tête dans sa chambre, Matt s'observait dans un grand miroir en pied de Tailin. Les habits rouges, comme le reste des horreurs qu'elle lui avait offertes, étaient rangés dans l'armoire. Si la taille lui convenait, le prochain caneton de la reine en ferait bon usage. Pour l'heure, Matt avait choisi la veste la moins raffinée parmi sa garde-robe. Un modèle en laine bleue, bien coupé, mais sans l'ombre d'une broderie. Le genre de vêtement qu'un homme pouvait être fier de porter, sans pour autant attirer tous les regards. Bref, une tenue décente.
« Un peu de dentelle, quand même. »
marmonna le jeune flambeur en tirant sur le col de sa chemise.
« Rien, pour égayer. »
Très ordinaire, quand même, cette veste. Presque austère.
« Je ne connais rien à la mode, » répondit Julien.
« C'est pour ça que tu voulais me voir ?»«
Bien sûr que non. Qu'est-ce qui transiguerait ?»
Julien souriait d'une oreille à l'autre.
« Je suis heureux, c'est tout. Sourate est partie et je me réjouis.
Si tu ne voulais pas mon avis sur la dentelle, pourquoi m'avoir fait venir ?»
Par le fichu sang et les maudites cendres. La dulcinée de Julien devait être une des dacs ovalées que Sourate avait laissées en arrière. Sinon, pourquoi aurait-il été content que la haute dame soit partie ? Ce fou voulait lui arracher une de ses propriétés. Au fond, comparé à deux damanes, ce n'était pas si grave que ça. En boitillant, Matt alla rejoindre Julien, lui passa un bras autour des épaules et l'entraîna dans le salon.
« Il me faut une robe de damane pour une femme mince qui m'arrive à l'épaule. »
Matt fit son plus beau sourire à son interlocuteur, qui se rembrunit à vue d'œil.
« Il me faut aussi trois tenues de souldam et un adam. » En réfléchissant, je me suis dit qu'un pisteur de voleurs serait le plus qualifié pour commettre ces larcins.
« Je suis un pisteur, justement, pas un voleur. »
grogna Julien en se dégageant de l'étreinte de Matt. Le jeune homme cessa lui aussi de sourire.
« Julien, tu le sais aussi bien que moi. Le seul moyen de faire sortir ces Aes Sedai, c'est de se débrouiller pour que les gardes croient avoir affaire à des damanes. Teslin et Edessina portent la robe appropriée, mais il faudra déguiser Julien. Mon ami, Sourote sera de retour dans une semaine. Si nous ne sommes pas partis d'ici là... Il est presque certain que l'élu de ton cœur lui appartiendra toujours quand nous filerons. »
En réalité, Matt aurait juré qu'aucun d'eux ne partirait s'il ne se décidait pas très vite. Dans cette ville, tout pouvait arriver, et surtout le pire. Julien fourra les mains dans les poches de sa veste sombre et foudroya Matt du regard. Non, pas Matt. Comme si ses yeux le traversaient, il fixait méchamment quelque chose que le pisteur de voleurs détestait sacrément.
« Ce ne sera pas facile, »
finit-il par marmonner. Les jours suivants ne le furent pas vraiment non plus. Langue de vipère, comme toutes les servantes, celles de Tailin se moquèrent abondamment des nouvelles tenues de Matt. Les anciennes, en réalité, mais ça ne changeait rien. Souriant sur son passage, ses harpies pariaient à voix haute qu'il ne lui faudrait pas 5 minutes pour se changer, dès que la reine se remontrerait. En majorité, ces femmes semblaient penser qu'il arracherait ses habits dès qu'on annoncerait l'arrivée de sa maîtresse. Matt ne se laissa pas ébranler, sauf en ce qui concernait le retour de Tailin. La première fois qu'une servante en parla devant lui, il en sursauta d'effroi, craignant qu'elle se doute de quelque chose. Beaucoup de servantes, et la totalité des domestiques mâles, tenaient son changement d'habit pour l'indice d'un départ imminent. Une fuite piteuse, selon ces gens, qui faisaient donc tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Selon eux, il était le seul remède efficace contre la rage de dents de la reine, et ils ne voulaient pas qu'elle les morde tous à son retour, quand elle trouverait vide la cage de son caneton. Si Matt n'avait pas affecté Lopin ou Nérim à la garde de ses vêtements dans la chambre royale, nul doute qu'ils auraient de nouveau disparu. Dans le même ordre d'idées, seuls Vanine et les bras rouges empêchaient Pépin de quitter mystérieusement les écuries. Matt ne fit rien pour détromper les serviteurs. Quand ils fileraient, deux damanes se volatilisant en même temps, le lien serait facile à faire. Étant absente et son mignon ayant manifesté l'intention de fuir avant son retour, la reine ne risquerait aucune accusation. Chaque jour, même sous la pluie, Matt chevaucha Pépin dans la cour des écuries, comme s'il cherchait à se remettre en forme. Ce qui était exactement le cas. Même si sa jambe et sa hanche restaient atrocement douloureuses, il commença à croire qu'il pourrait chevaucher 4 lieues de rang avant de devoir mettre pied à terre. 3 lieues, en tout cas. Par beau temps, les souldames promenaient volontiers leurs damanes pendant qu'ils tournaient en rond dans la cour. Consciente qu'il n'appartenait pas vraiment à la reine, les Seanchanien parlaient pourtant de lui en l'appelant le jouet de Tailin. Oui, le jouet de Tailin. Comme si c'était son nom. À leurs yeux, ils ne comptaient pas assez pour qu'elles essaient de savoir s'il en portait un autre. Dans leur culture, on était un dac ovalé ou non, et le statut intermédiaire de Matt les amusait. Chevauchant sous les rires des souldames, il se convainquit plus ou moins que c'était une bonne chose. Plus nombreux seraient les gens qui témoigneraient de son désir de partir, moins Tailin risquerait d'ennui. Alors, qu'importait son orgueil blessé? Parfois, Matt identifiait des Aes Sedai parmi les Daman, trois d'entre elles, en plus de Teslin. Hélas, il ignorait à quoi pouvait ressembler Edessina. Était-elle la petite femme pâle qui lui rappelait Moiraine, la grande aux cheveux blonds argentés ou la brune mince comme une liane? Sans la dame et la soule-dame qui la tenait en laisse, ces trois femmes auraient pu être de simples promeneuses. Teslin, en revanche, affichait sa morosité et sa détermination à ne pas plier. Avec une petite nuance de terreur, aurait-on dit. Si elle s'impatientait, elle pouvait commettre un impair. N'ayant pas besoin de ses anciens souvenirs, pour savoir que la détermination et la terreur faisaient un mélange explosif, Matt aurait voulu rassurer Teslin. Mais il n'osait pas retourner dans le chenil, au grenier. En particulier parce que Tuan continuait à lui apparaître, au détour de tous les couloirs. Bien trop souvent pour qu'il puisse ne pas s'en inquiéter. Mais pas assez pour qu'il soit sûr qu'elle le suivait. D'ailleurs, pourquoi aurait-elle fait ça? Parfois, c'est Lucia, sa Sojin, était avec elle. À d'autres occasions, c'était Anat. Mais celle-ci finit par ne plus se montrer au palais, du moins dans les couloirs. Elle faisait une retraite, murmurait-on. Quoi que ça puisse être. Dommage qu'elle n'ait pas eu l'idée d'emmener Tuon. La jeune fille, si elle le surprenait encore, ne croirait sûrement pas deux fois qu'il apportait des confiseries à une régente des vents. Voulait-elle toujours l'acheter? C'était possible. Mais pourquoi diantre en était-il ainsi? Quoi qu'il en soit, bien malin qui pouvait dire pourquoi un homme plaisait à une femme. Parfois, elle se pâmait devant des types vraiment ordinaires. Cela dit, il n'avait rien appris de beauté, malgré ce qu'affirmait Tailin, et il le savait. Pour attirer un homme dans son lit, une femme ne reculait devant aucun mensonge, et moins encore pour l'y garder. Cela posé, Tuan était une nuisance mineure, une mouche posée sur son oreille et rien de plus. Pour le déstabiliser, il fallait plus que des jacasseries de femme et une gamine omniprésente. En revanche, bien qu'elle fût absente, Tailin y parvenait toujours. Si elle le surprenait en train de préparer sa fuite, à son retour, elle risquait de vouloir le vendre. Devenue une haute dame, elle ne tarderait pas à se raser le crâne et à arborer une crête. Il en aurait mis sa main au feu. Admise dans le haut sang, que ferait-elle de lui? Oui, Tailin lui valait quelques sueurs froides. Mais il y avait bien pire que ça. Le golem continuait à tuer, ainsi que le lui apprirent Noal et même Tom. Un nouveau meurtre chaque nuit, même si personne, à part Matt et ses deux amis, ne faisait le lien entre ces drames. Hors du palais, Matt restait autant que possible en pleine vue et au milieu d'une foule de gens. Ayant cessé de dormir dans le lit de Tailin, il ne passait pas deux nuits de suite au même endroit. Un soir, il dormit même dans une grange. Pas pour la première fois, même s'il avait oublié que la paille piquait tellement les fesses à travers un fond de pantalon. Mais quelques démangeaisons étaient préférables à une gorge en charpie. Après avoir décidé de libérer Teslin, ou au moins d'essayer, Matt s'était mis en quête de Tom. Et il l'avait trouvé dans les cuisines, en train de déguster un poulet au miel, en bavardant avec les employés. Avec les cuisinières comme avec les fermiers, les marchands et les nobles, le trouvère avait l'art d'établir le contact. Un ton qui lui permettait de glaner toutes sortes de rumeurs et d'en faire la synthèse. Doté d'un regard d'aigle, il voyait du premier coup d'œil des détails cruciaux qui échappaient aux autres. Ce soir-là, son poulet terminé, il avait vite trouvé le seul moyen de faire sortir les Aes Sedai au nez et à la barbe des gardes. Avec lui, ça semblait un jeu d'enfant. Jusqu'à ce que ça se complique, bien entendu. Sans doute à cause de son métier, Julien avait la même façon de voir ce qui n'apparaissait pas à tout le monde. Certains soirs, Matt retrouvait les deux hommes dans leur minuscule chambre, au cœur des quartiers des domestiques. Des réunions au sujet de tous les obstacles qui donnaient des sueurs glacées aux jeunes flambeurs. Lors de ce premier conciliabule, la nuit du départ de Tailin, Beslan déboula pour voir Tom. Hélas, il avait d'abord écouté à la porte et entendu bien trop de choses pour gober une histoire à dormir debout. Comble de malchance, il déclara qu'il voulait être dans le coup et proposa même une stratégie.
« Un soulèvement !»
annonça-t-il en s'asseyant sur un tabouret entre les deux lits. Une table de toilette sans miroir complétait le mobilier. Assis au bord d'un lit en manche de chemise, Julien semblait fermé comme une huître. Allongé sur l'autre couche, Tom étudiait ses phalanges avec une moue pensive. Matt se campa devant la porte, histoire d'empêcher une nouvelle intrusion. Devait-il rire ou pleurer, il aurait été bien en peine de le dire. À l'évidence, Tom était au courant de cette folie depuis le début, et c'était ça qu'il avait tenté d'empêcher.
« Le peuple bougera sur un seul mot de ma part, »
assura Beslan.
« Avec mes amis, nous avons contacté des hommes partout en ville. Ils sont prêts à se battre. »
Avec un soupir, Matt fit peser l'essentiel de son poids sur sa bonne jambe. Quand Beslan et ses amis donneraient le signal, soupçonnait-il, ils se retrouveraient seuls. Surtout face à des soldats aguerris, les gens aimaient mieux parler de se battre que passer à l'action.
Meslan,
fit Matt.
Dans les récits des trouvères, des garçons d'écurie armés de fourches et des boulangers lançant des pavés réussissent à terrasser des armées grâce à leur soif de liberté.
Tom soupira si bruyamment que sa moustache blanche en frémit. Implacable, Matt l'ignora.
Dans la vraie vie, les garçons d'écurie et les boulangers se font massacrer. Je sais reconnaître des bons soldats quand j'en vois, et les Séanchaniens sont excellents. Si nous libérons toutes les Damanes en plus des Aes Sedai,
insista Beslan,
elles combattront à nos côtés. Là-haut, il doit y avoir plus de 200 Damanes, en majorité Séanchaniennes. Libère-les, Beslan, et elles fileront prêter main forte aux Souldam. On ne peut même pas se fier à toutes les non-Séanchaniennes.
Matt leva une main pour étouffer les objections du prince.
Impossible de savoir lesquelles nous aideraient. De toute façon, nous n'en avons pas le temps. Et si c'était possible, il faudrait tuer toutes les autres. Ne compte pas sur moi pour exécuter des femmes dont le seul crime est de porter un collier. Et toi, ça te tente ?
Beslan détourna le regard, mais ne desserra pas les dents. Il refusait de capituler.
Daman libéré ou non,
continua Matt.
En cas de soulèvement, les Séanchaniens transformeront Eboudar en charnier. Ils répriment durement les émeutes, mon ami. Très durement. Et si nous tuions toutes les Damanes du palais, ils en feraient venir d'autres. À son retour, ta mère retrouverait un champ de ruines, ta tête fichée sur une pique au beau milieu, et la sienne ne tarderait pas à la rejoindre. Tu n'imagines pas que les Séanchaniens croiront qu'elle ignorait les intentions de son fils.
D'ailleurs, les ignorait-elle ? Tailin était assez courageuse pour tenter le coup. Peut-être pas assez stupide, mais...
Elle dit que nous sommes des souris,
lâcha Beslan, amer.
Quand les molosses passent, les souris se tiennent tranquilles ou se font dévorer. Moi, je déteste être une souris, Matt.
Le jeune flambeur respira un peu moins mal.
Mieux vaut une souris vivante qu'un rat crevé, Beslan.
Pas la manière la plus diplomatique de présenter les choses. D'ailleurs, le prince fit la grimace, mais sûrement la plus efficace. Ne serait-ce que pour le contrôler, Matt invita Beslan à toutes les réunions. Hélas, il se montra rarement, et il revint à Tom de doucher ses ardeurs chaque fois qu'il en avait l'occasion. Le mieux qu'il obtint fut une promesse. Avant de lancer sa révolution, Beslan attendrait que ses amis soient partis depuis un mois. C'était acquis, si insatisfaisant que ce fût. Pour tout le reste, Matt eut le sentiment de devoir faire deux pas en arrière, chaque fois qu'il en faisait un en avant. Ou de finir dans un mur quand ça n'arrivait pas. L'amoureuse de Julie avait beaucoup d'emprise sur lui. Pour elle, il n'hésitait pas à troquer sa tenue de théard contre la livrée vert et blanc d'un domestique, ni à se passer de sommeil pour balayer deux nuits durant le sol, au pied de l'escalier menant au chenil. Au palais, personne n'accordait d'attention à un balayeur, pas même les autres domestiques. Et bien entendu, les serviteurs étaient bien trop nombreux pour se connaître tous. Donc, si un type en livrée maniait un balai, il supposait qu'on le lui avait ordonné. Julien passa également deux jours à balayer. Puis il vint faire son rapport. Les Souldam, exposa-t-il, inspectaient le grenier à l'aube et à la tombée de la nuit. Parfois, elles passaient aussi dans la journée, mais la nuit, les Damanes étaient abandonnées à elles-mêmes.
« J'ai entendu une Souldam se réjouir de ne pas être dans les camps où... »
Étendue sur son lit, Julien fut interrompue par un bâillement d'anthologie. Tom étant assis au bord de sa couche, Matt avait hérité du tabouret. C'était toujours mieux que de rester debout, mais à peine.
« Où elle devrait monter la garde certaines nuits ?»
acheva le pisteur de voleur quand il put enfin parler.
Elle a ajouté qu'elle trouve bien de pouvoir laisser dormir les Damanes, parce qu'elles sont plus fraîches au réveil. « Donc, nous devons agir de nuit. »
souffla Tom, en lissant sa longue moustache. Inutile d'ajouter que la nuit, tout ce qui bougeait attirait l'attention. Les Séanchaniens, contrairement à la garde civile, patrouillaient à toutes les heures de la journée. Et les gardes n'étaient pas insensibles aux pots de vin, jusqu'à ce que les occupants leur bottent les fesses. Désormais, c'était sûrement les gardes de la mort qui se chargeaient des patrouilles nocturnes. Tenter de les corrompre était le meilleur moyen de finir devant un juge.
« Tu as trouvé un Adam, Julien ? Et les robes ? Ça ne peut pas être aussi difficile que le collier. »
Julien bâilla une nouvelle fois.
« J'aurai tout ça. Quand j'aurai tout ça. »
« Les robes, ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. »
Un autre jour, Tom annonça que franchir les portes avec des Damanes était impossible. Une découverte qu'il devait à Rizel, admit-il avec une rare franchise. Tout ça, semblait-il, parce qu'un des hauts gradés descendus à la vagabonde avait une voix de baryton qu'elle trouvait des plus agréables.
« Un membre du sang peut faire sortir une Damane sans qu'on lui pose de questions »,
précisa Tom, lors de la réunion suivante. Cette fois, les deux hommes étaient assis sur les lits. À force, Matt avait pris le tabouret en grippe.
ou presque pas de questions, rectifia le Trouvert. Les Souldam, elles, ont besoin d'un ordre signé par un membre du sang et portant son sceau. Un capitaine, au minimum, peut faire l'affaire, ou une der Souldam. Aux portes et sur les quais, les gardes ont la liste des sceaux valables. Du coup, impossible d'en inventer un. Il me faudra un exemplaire d'un ordre véritable, avec un sceau valide. Ça laisse une question. Qui seront nos trois Souldam ?
Rizel conviendrait bien.
Avança Matt. Elle n'était pas au courant de leur plan, et l'en informer serait un risque. Prétextant vouloir découvrir la culture des Séanchaniens, Tom l'avait bombardé de questions, qu'elle s'était empressée de poser à ses amis Séanchaniens. Mais elle se montrerait sûrement moins enthousiaste à l'idée que sa tête puisse finir sur une pique. Et elle pouvait faire pire que refuser.
Et la dame de ton cœur, Julin ? Qu'en dirais-tu ?
Pour la troisième fausse Souldam, Matt avait sa petite idée. Du coup, il avait commandé au pisteur de voleurs une robe à la taille de Seta Lanan. Pour l'instant, il n'avait parlé de rien à l'aubergiste, car il n'était revenu qu'une fois à la vagabonde, depuis que Jolene s'était installée sur ses genoux aux cuisines. Une visite pour s'assurer que la Sedai avait conscience qu'il faisait tout son possible. Bien entendu, ce n'était pas le cas. Mais maîtresse Anan avait su calmer la sœur avant qu'elle fasse un esclandre. Pour Jolene, elle serait une Souldam parfaite. Jolene est une moue dubitative.
« J'ai eu un mal de chien à convaincre Terra de partir avec moi. Désormais, elle est... timide. Avec le temps, je l'aiderai à surmonter ça. C'est une certitude. Mais elle n'est pas prête à jouer le rôle d'une Souldam. »
Tom tira nerveusement sur sa moustache.
« Je doute que Rizel consente à partir, quelles que soient les circonstances. Il semble qu'elle ait massé la voix du général d'Étendard Yamada pour avoir décidé de l'épouser. Navré, mais nous n'aurons plus d'informations venant de cette source. »
Et le Trouvert devrait partir en quête d'un autre oreiller, semblait-il.
« Tous les deux, réfléchissez à qui nous pourrions demander de partir. Et trouvez-moi un de ces fichus ordres !»
Après s'être procuré l'encre et le parchemin requis, Tom se déclara prêt à imiter n'importe quelle signature. Même chose pour les sceaux. D'ailleurs, pour ces derniers, il éprouvait un mépris souverain. Pour les copier, affirmait-il, il suffisait de disposer d'un couteau et d'un navet. Copier une écriture au point que la victime elle-même s'y trompe, ça, c'était de l'art. Hélas, pas moyen de trouver un ordre signé et revêtu d'un sceau. Comme pour les Adam, les Séanchaniens n'en semaient pas au coin des rues. D'ailleurs, concernant le collier, Julin ne semblait pas progresser. Foncer vers un mur, en effet. Et pour ces piètres résultats, 6 jours gaspillés. Combien en restait-il ? 3, 4 au maximum ? Pour Matt, on eût dit que 6 ans s'étaient écoulés depuis le départ de Tailin, et qu'il restait 4 heures jusqu'à son retour. Le 7e jour, Tom se campa devant Matt dans un couloir, alors qu'il revenait de sa séance avec Pépin. Souriant pour mimer une conversation amicale, le Trouvert baissa le ton. En passant, les serviteurs ne pouvaient rien entendre d'autre que des murmures.
« D'après Noal, le Golam a encore tué la nuit dernière. Les chercheurs ont ordre de trouver le meurtrier, quitte à se priver de manger et de dormir jusque-là. Impossible de savoir qui leur a ordonné ça. Tout est secret. Même le fait qu'ils se sont lancés sur la piste du tueur. Cela dit... ils en sont presque à préparer leur chevalet de torture et à faire chauffer leur fer. »
Voix basse ou pas, Matt regarda autour de lui pour voir si on les écoutait. La seule personne en vue était un gros type aux cheveux gris nommé Narvin. Un domestique de si haut rang qu'il ne portait jamais aucune charge et ne se pressait en nulle circonstance. Étonné de voir Matt regarder partout, il plissa le front. Au lieu de le gratifier d'un rictus comme il en brûlait d'envie, Matt lui fit son sourire le plus désarmant. Maussade, Narvin reprit son chemin. C'était lui. Le jeune flambeur l'aurait juré, qui avait organisé la première tentative d'enlèvement de Pépin.
« C'est Noal qui t'a dit pour les chercheurs ?»
demanda Matt, incrédule, quand Narvin fut assez loin.
« Bien sûr que non, »
répondit Tom avec un geste de la main éloquent.
« Lui, il n'est au courant que des meurtres, bien que... il entend beaucoup de murmures et semble comprendre ce qu'ils signifient. Un talent très rare, ça. Je me demande s'il n'est pas vraiment allé à Shara. Il dit que... »
Sous le regard noir de Matt, Tom se racla la gorge et changea de sujet.
On reparlera de ça plus tard. J'ai d'autres sources que Rizel, même si je la regrette infiniment. Et parmi ces sources, un grand nombre sont des oreilles. Comme leur nom l'indique, ces gens entendent quasiment tout.
Tu as parlé à des oreilles ?
S'étrangla Matt.
Ce n'est rien d'extraordinaire, tant que ton interlocuteur ne se doute pas que tu sais. Matt, avec les Séanchaniens... mieux vaut supposer qu'ils sont tous des oreilles. Ainsi, tu apprends ce que tu veux savoir, sans risquer de dire la mauvaise chose à la mauvaise personne.
Le trouvère eut un sourire inhabituellement modeste, une astuce pour s'attirer un compliment, comprit Matt.
J'ai démasqué deux ou trois de ces espions. En toutes circonstances, les informations supplémentaires ne font jamais de mal. Tu veux être parti avant le retour de Tailin, pas vrai? Sans elle, tu as l'air un peu perdu.
Matt eut un grognement agacé. Ce soir-là, le golem frappa de nouveau. Le lendemain, Lopin et Nerim commentaient la nouvelle avant que Matt ait fini son poisson du petit déjeuner. Selon eux, la ville entière était en ébullition. La dernière victime, une femme, avait été découverte à l'entrée d'une ruelle. Et tout d'un coup, les gens avaient fait le lien entre tous les crimes de la série. Un fou rôdait en liberté, et les braves gens exigeaient plus de patrouilles nocturnes. L'appétit coupé, Matt repoussa son assiette. Plus de patrouilles. Et si ça ne suffisait pas comme catastrophe, Sourot risquait de revenir plus tôt, si elle avait écho du carnage, en ramenant Tailin. Au mieux, Matt pouvait compter sur deux jours de répit. De quoi lui donner envie de vomir ce qu'il venait de manger. Il passa le reste de la matinée à faire les 100 pas, en boitillant, dans la chambre royale. Ignorant sa jambe douloureuse, il tenta de trouver un moyen d'accomplir l'impossible en deux jours. Côté jambe, ça s'améliorait, fallait-il avouer. Le bâton oublié, Matt avait repris des forces, et il s'estimait capable de marcher deux ou trois lieues d'affilée sans avoir besoin de repos. Enfin, pas d'une longue pause. À midi, Julin lui apporta les premières bonnes nouvelles qu'il recevait, depuis une éternité. Sauf que ce n'était pas des nouvelles, mais un sac de toile, contenant un Adam enveloppé dans deux robes.